Chapitre 9. Nous avons vu dans les deux chapitres précédents l'histoire des quatre bêtes en général, spécialement celle de la petite corne qui proférait de grandes choses et des blasphèmes contre Dieu, qui était l'ennemi des saints, qui représentait la bête romaine, c'est-à-dire qui agissait à son gré selon la puissance de cette bête. Chapitre 7. Dans le chapitre 8, nous avons trouvé une nouvelle petite corne qui s'élève au milieu des monarchies grecques, qui, à la fin, s'élèvera contre le prince des princes et qui, enfin, sera détruite sans main. Maintenant, le prophète porte sa pensée et son cœur vers un autre sujet que celui au milieu duquel il se trouvait, savoir, vers les désolations de Jérusalem. Tel est spécialement le sujet de ce chapitre. Or, voici ce qui y conduit le prophète. Il était, de ceux qui avaient ces paroles dans le cœur, « Jusque à quand, Seigneur ?» C'est en effet ce qui signale spécialement la foi quand les jugements pèsent sur le peuple de Dieu, parce que la foi voit toujours ce peuple selon les promesses que Dieu lui a faites. Tous ses privilèges, la jouissance de ses bénédictions, la joie, les relations de ce peuple avec Dieu, les conséquences bénies de ces relations, comme il est dit « Puisses-tu voir le bien de Jérusalem tous les jours de ta vie ?» Psaume 128, verset 5, font la joie d'une personne qui a saisi la pensée de Dieu, en qui la foi agit et dont le cœur bat, pour ainsi dire, avec le sien. Mais quand l'affliction pèse sur ce peuple et qu'il ne jouit plus de tous les privilèges que la foi reconnaît lui appartenir, alors cette même foi dit « Jusque à quand, Seigneur ?» D'un côté, elle ne peut être contente du malheur dans lequel le peuple se trouve. Et, de l'autre, elle sait très bien qu'il est impossible que Dieu l'abandonne. Elle dit « Cet état de malheur doit cesser. » Les méchants, il est vrai, ne sont pas relevés quand ils tombent. Mais, quant au peuple de Dieu, il faut absolument qu'ils soient relevés. De là, dans les psaumes et les prophètes, cette expression « Jusque à quand ?» Il n'y a personne avec nous qui sache jusque à quand. Psaume 74, verset 9. C'est-à-dire, il n'est personne qui sache assez compter sur la fidélité de Dieu à ses promesses. Quand cela arrive, quand il n'y a pas la foi qui dit « Jusque à quand ?», lorsque le malheur et le châtiment pèsent sur le peuple, alors on s'abandonne au mal, ou bien l'on dit « C'est en vain, car j'aime les étrangers et j'irai après eux. » Jérémie 2, verset 25. Or, c'est ce besoin de la foi qui agit ici en Daniel. Il avait cette consolation que, lorsque Dieu avait prononcé le jugement de la captivité de Babylone sur son peuple, il avait aussi déclaré quel serait le terme de ses souffrances. Jérémie avait prédit que la captivité durerait 70 ans, et qu'au bout de ces années, Dieu jugerait Babylone par Cyrus. À la fin de cette période, Daniel, s'intéressant au peuple de Dieu, s'occupe de la délivrance de Jérusalem, des promesses qui lui sont faites, ainsi qu'à la nation, de sa délivrance à la fin des 70 années. Mais alors, ce qui accompagne toujours la foi, c'est que, si elle compte sur la bonté de Dieu, si elle comprend les privilèges de son peuple et soupire après le moment où il jouira de tous ses privilèges, elle reconnaît aussi le péché qui a forcé Dieu de les en priver pour un temps. La foi ne peut se décourager comme si Dieu était infidèle, mais elle reconnaît que la faute est du côté du peuple et que Dieu est fidèle dans ce qu'il a fait. C'est de cette manière que ce chapitre commence. L'intérêt que Daniel avait mis à la bénédiction d'Israël l'a poussé à considérer la prophétie de Jérémie, et alors il tourne sa face vers le Seigneur pour lui demander de confirmer la bénédiction dont il avait parlé par Jérémie, c'est-à-dire d'accomplir la délivrance du peuple de la captivité. Une autre chose que nous voyons ici au sujet de la foi, et qui, du reste, a été parfaitement manifestée en Jésus, c'est que la foi s'identifie complètement avec l'affliction du peuple de Dieu, et de plus, avec tous les péchés de ce peuple. C'est ce qui distingue l'Esprit de Christ. Lui est allé plus loin, parce qu'il a pu faire l'expiation de ses péchés. Mais le privilège de tous les saints est de s'identifier, dans la mesure de leur foi, avec tous les péchés du peuple de Dieu, avec tout ce qui a été l'occasion du châtiment qui pèse sur lui. La foi peut être faible, mais il est impossible qu'avec le sentiment de la bénédiction qui appartient au peuple de Dieu et de la gloire de Dieu dans son peuple, elle ne tienne pas compte de cet état. Mais si elle tient compte de toutes ces choses, elle reconnaît aussi tous les péchés qui ont été l'occasion du jugement par lequel le peuple est privé des bénédictions. La foi s'identifie avec cet état et, en portant les conséquences, elle en réalise la cause. Car la foi identifie la gloire de Dieu avec son peuple et s'identifie elle-même avec les deux. L'état de ce peuple vis-à-vis de Dieu devient le principe qui anime le cœur. Plus il y a de foi, plus cette foi, selon la mesure de son intelligence, tiendra compte de tout ce que le peuple de Dieu a fait contre lui, repassera tous ses péchés, les reconnaîtra, s'identifiera avec eux. Si la foi ne faisait pas cela, elle ne pourrait pas présenter ses péchés dans la confession pour qu'ils fussent pardonnés. L'esprit qui est en nous, l'esprit de prophétie, prend nécessairement connaissance, au point de vue moral, de toute l'affaire. Or, ou je ne m'inquiéterai pas de l'état du peuple, ou bien si je m'en inquiète, je devrais prendre connaissance de tout ce qui a causé cet état devant Dieu, sans quoi tout resterait imparfait. Il en était ainsi du souverain sacrificateur quand il confessait tous les péchés du peuple sur le bouc Azazel. J'admets pleinement qu'il peut y avoir de l'imperfection dans l'acte de la confession, mais selon les principes de la foi, il doit y avoir identification, une confession plénière devant Dieu. Si je pensais avoir la rémission, nous parlons dans le sens d'ôter le châtiment gouvernemental de Dieu dans le temps actuel, si je pensais que le châtiment fût ôté en confessant une partie des péchés, je puis les ignorer, ou sans sentir leur gravité, il est très évident que ce serait se moquer de Dieu dans son gouvernement. En sorte qu'il est absolument nécessaire, si par exemple je veux souffrir avec Christ pour son Église, et si je suis conduit par son esprit dans l'amour des siens, que je m'humilie et que je confesse tous ses péchés. Or, c'est précisément ce que Daniel fait ici. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la semence des Mèdes, qui fut fait roi sur le royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je compris par les livres que le nombre des années touchant lequel la parole de l'Éternel vint à Jérémie le prophète pour l'accomplissement des désolations de Jérusalem était de 70 années. Et je tournai ma face vers le Seigneur Dieu pour le rechercher par la prière et la supplication, dans le jeûne et le sac et la cendre. Et je priai l'Éternel, mon Dieu, et je fis ma confession et je dis : Je te supplie, Seigneur, le Dieu grand et terrible, qui garde l'alliance et la bonté envers ceux qui t'aiment et qui garde tes commandements. Versets 1 à 4. Daniel a présent à l'esprit la prophétie de Jérémie. Quand j'ai parlé plus haut de l'esprit de prophétie, je n'ai pas parlé d'une révélation faite au prophète. Il ne s'agit pas de la réponse que Dieu fait à un prophète quand il présente les besoins de son peuple. Daniel, ici, était prophète, mais, dans sa confession, il ne s'agit pas du tout d'une révélation spéciale faite à lui. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu fait comprendre ici ce qu'il avait entendu par les livres. C'était un fidèle qui étudiait la prophétie. Dieu lui répond après par une révélation précise. La foi agissait chez lui, cette foi toute simple qui s'identifie avec les intérêts du peuple de Dieu. C'est aussi ce que nous pouvons faire, tout comme Daniel, savoir, comprendre ce que Dieu a déjà dit à l'égard de son peuple. Tout est révélé dans la Bible. Il y a des questions que nous ne savons pas résoudre, parce que nous ne sommes pas assez spirituels, mais nous nous attendons à l'enseignement de Dieu, qui est aussi nécessaire pour l'intelligence que pour la révélation des pensées de Dieu. Il est intéressant de faire cette remarque. Daniel avait entendu par les livres que la captivité devait durer 70 années. C'est un fidèle. C'est l'esprit d'un prophète qui s'intéresse au peuple de Dieu et qui cherche par l'intelligence spirituelle qui est donnée à ceux qui marchent avec Dieu, quelles sont les pensées et les voies de Dieu et quel est le nombre des années desquelles il avait parlé. Je ne dis pas que nous ayons la même foi, la même intelligence, mais nous sommes sur le même terrain. Daniel représente ici ce résidu fidèle ayant le cœur rempli du désir que la grâce de Dieu soit sur son peuple et qui étudie la parole de Dieu dans ce but. La conséquence en est que l'Esprit le pousse à tourner sa face vers le Seigneur parce que, quelles que soient les intentions de Dieu, il y a toujours dans les actes de son gouvernement ce qui appuie le chemin moral que Dieu a tracé à son peuple ou les principes moraux que Dieu lui a donnés. C'est pourquoi, là où cet esprit de foi agit, ce ne sont pas certaines connaissances seulement qui sont acquises. On peut avoir la tête remplie de connaissances, de dates, ce qui est sans doute quelquefois précieux, mais lorsque l'Esprit de Dieu agit, on tourne sa face vers le Seigneur, on fait requête et supplication, c'est-à-dire on a l'âme toute humiliée devant Dieu parce qu'elle dit « Voilà où nous en sommes ». C'est ce qui est arrivé à Daniel. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu. Daniel avait été emmené captif étant encore enfant, et il n'avait pris aucune part quelconque à l'iniquité d'Israël. Ce n'était donc pas lui qui pouvait s'en accuser, mais cela ne changeait rien à ses sentiments. Pourrions-nous supposer un Christ séparé de son peuple quant à ses intérêts? Cela ne se peut pas. L'Esprit de Christ, qui est moralement d'une manière plus puissante en nous que dans les fidèles du temps de Daniel, n'est pas autre chose que l'Esprit de Christ en Christ. C'est-à-dire, le principe sur lequel il agit est le même. Christ a fait, lui seul, ce que nul autre n'a pu faire, nous le savons bien. Mais la tendance, les sentiments, les affections de l'Esprit de Christ en nous ne peuvent pas être autre chose que l'Esprit de Christ en Christ. Eh bien, si Christ s'identifie avec tout ce que le peuple a fait depuis le commencement, Daniel aussi peut dire « Nous avons péché », etc. Versets 5 à 7. Cela ne regarde pas Daniel. Aucun prophète ne lui avait parlé. Il avait été à Babylone toute sa vie. Et les prophètes ne prophétisaient pas à Babylone. Mais lui, il y prophétisait. Et de plus, ces mêmes péchés dont il parle dans sa requête avaient été commis avant la captivité et étaient la cause de l'état où Daniel se trouvait, subissant les conséquences des péchés d'autrui, quoiqu'il n'eût pas du tout participé à ces péchés. Néanmoins, il se trouvait sous les jugements de Dieu. Et nous le voyons tenir ce langage dans les versets 6 et 7, « Et nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes », etc. Il y avait solidarité complète entre tous, hommes de Juda, habitants de Jérusalem et tout Israël, dans tous les pays où tu les as chassés à cause de leurs infidélités par lesquelles ils ont été infidèles envers toi. Verset 7. Seigneur, à nous la confusion de face. Nous voyons encore ici la même chose. Ces rois n'existaient plus, à moins que Jéhoiakim ne fût peut-être encore à Babylone. Mais Daniel voyait l'ensemble de leur état. Toute la masse d'Israël était dans cette confusion de face. C'est la justice qui appartient à Dieu. Mais il y a une autre chose que l'Esprit de Christ reconnaît. Au Seigneur notre Dieu sont les compassions et les pardons, car nous nous sommes rebellés contre lui. Verset 9. C'est une singulière raison. Mais Daniel avait une telle conviction de la bonté de Dieu qu'il dit « Ce n'est pas seulement la justice qui punit, qui se trouve en Dieu. Mais nous avons péché. Il y a une miséricorde. » Comme disait David, « Ô Éternel, tu me pardonneras mon iniquité, car elle est grande. » Psaume 25, verset 11. C'est-à-dire qu'il n'y a rien que les miséricordes qui puissent me convenir. Je n'ai pas de justice. Je ne puis offrir des sacrifices comme les Juifs. Il faut que j'aie recours à toi. Il me faut la miséricorde et le pardon. C'est comme une conséquence que le prophète tire. Il y a du péché, eh bien, il faut qu'il y ait miséricorde. Tous ont transgressé la loi. Il ne s'agit pas de dire « Shadrach, Meshach et Abednego ne l'ont pas fait ». Josias a fait quelque chose de bon. David était selon le cœur de Dieu. Tout cela est confondu dans cette idée « Si le peuple de Dieu ne jouit pas de ses privilèges, c'est parce qu'il a péché et que le péché est puni. Il peut y avoir des choses qui ont retardé le jugement, mais une fois que le jugement a lieu, l'Esprit dit « Tous ont transgressé ». Il y a un gouvernement de détail, comme nous voyons en Ézéchias, où le châtiment a été annoncé puis renvoyé. Vous irez à Babylone, mais ce mal n'arrivera pas en tes jours. Quant à ces détails de gouvernement, voyez aussi le cas de Josias. Il est tombé par la main de Pharaon Nécho, quoi qu'il lui ait été dit, 2 Rois 22, verset 20, « Tu seras recueilli en paix dans tes sépulcres », mais il a été ôté de devant le mal. Les circonstances étaient affligeantes, car il paraît qu'il aurait dû écouter le Pharaon, mais quant au gouvernement de Dieu, la paix de celui qui a l'esprit de Christ, c'est de ne pas voir le mal qui tombe sur son peuple quand sa colère s'embrase contre lui. Josias a été châtié individuellement, mais il n'a pas vu comme Daniel tout ce qui est arrivé à Jérusalem. 2 Chroniques 34, verset 28. Le juste périt, et personne ne le prend à cœur, et les hommes de bonté sont recueillis sans que personne comprenne que le juste est recueilli de devant le mal. Ésaïe 57, verset 1. Et tout Israël a transgressé ta loi. Verset 11. Et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu afin de revenir de nos iniquités et de comprendre ta vérité. Verset 13. C'est-à-dire, non seulement nous avons transgressé, mais quand le châtiment est arrivé, tout ce mal est venu, et nous n'avons point supplié l'Éternel de nous détourner de nos iniquités. Voilà le comble du péché, l'insensibilité lorsque les conséquences sont là. Et l'Éternel a veillé sur le mal, et il l'a fait venir sur nous. Verset 14. Comme il avait veillé sur le bien pour nous bénir. C'est une chose terrible quand le gouvernement de Dieu veille sur le mal pour le faire venir sur son peuple. Car le jugement de Dieu commence par sa maison. 1 Pierre 4, verset 17. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte à main forte et qui t'es fait un nom, comme il paraît aujourd'hui, nous avons péché, nous avons agi méchamment. Verset 15. Exactement ce que Moïse a dit. Daniel ajoute, « Seigneur, selon toutes tes justices, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, ta sainte montagne. » Verset 16. Il est touchant d'examiner les paroles de Daniel. Il sentait profondément que c'était le péché du peuple qui avait fait venir tout ce mal. Toutefois, il dit, « Il s'agit de ton nom. » Il ne dit pas du nom du peuple. Il avait bien senti la misère et le péché du peuple. Il s'en était humilié, mais il s'appuie sur ce point que c'est la ville de Dieu, et il dit « Que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, cette ville choisie de Dieu, ta sainte montagne. Car à cause de nos péchés et à cause des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. » En les confessant, il ne peut pas supporter la pensée que la ville de Dieu soit désolée, mais ses péchés en étant la cause, il faut que Dieu pardonne les péchés pour qu'il puisse porter remède à la désolation de la ville. Elle porte le nom de Dieu, et aux yeux de Daniel, son peuple était, pour ainsi dire, le nom de Dieu sur la terre. Comme il est dit au psaume 24, verset 6, « Ceux qui recherchent ta face, ô Jacob !» Voilà donc le plaidoyer de Daniel. Il confesse tous les péchés de tout Israël, et alors c'est à cause de nos péchés que ta ville sainte et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Il faut donc que tu réveilles et que tu manifestes, car ce n'est pas à cause de nos justices que nous présentons devant toi nos supplications, mais à cause de tes grandes compassions. Verset 18. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif et agis. Ne tarde pas à cause de toi-même, mon Dieu, car ta ville et ton peuple sont appelés de ton nom. Verset 19. C'est toi-même qui es le motif. La foi qui a senti les péchés du peuple à cause de la gloire de Dieu, qui s'identifie avec ce peuple, peut réclamer la délivrance des résultats de ses péchés parce que cette gloire la nécessite, Dieu s'étant identifié en bonté avec eux. Et la foi peut réclamer cette délivrance parce que c'est cette gloire qui alimente et préoccupe la foi, et qui même a fait sentir les péchés. Mais si Dieu veut agir pour son nom, il faut qu'il délivre Jérusalem, car il n'y avait dans le monde entier que Jérusalem qui porta le nom de Dieu. Si le même esprit nous anime, nous devons dire, C'est pour les péchés de l'Église que nous sommes affligés et que nous sommes en opprobre à tout le monde. Aussi pouvons-nous compter sur la bonté de Dieu. Maintenant, j'ai quelque chose à ajouter quant à la position que Daniel prend prophétiquement. Ce qui m'a frappé en lisant ce chapitre, c'est qu'il ne prend pas du tout la position où l'auraient mis les promesses faites à Abraham. La pleine bénédiction des Juifs sera basée sur une autre vérité que celle qu'il rappelle ici. Les bénédictions des Juifs, telles qu'elles leur sont assurées pour l'avenir, sont basées sur les promesses faites à Abraham, à Isaac et à Jacob sans condition. Il ne s'agit pas ici de ces promesses. Israël n'a jamais possédé le pays sous la loi, à proprement parler. Le pays a été donné selon les promesses faites en faveur du peuple à Moïse lors de la médiation de ce dernier à Sinaï. Le pays n'a jamais été possédé sur le principe de l'obéissance à la loi, parce que, immédiatement après qu'elle fut donnée, les Israélites sacrifièrent au veau d'or. Il n'a pas été possédé non plus selon les promesses faites à Abraham, sans condition, parce que le peuple s'est placé sous la condition de l'obéissance pour en jouir d'après l'alliance de Sinaï. De plus, il n'a jamais joui du pays en qualité de peuple du Messie. Pour jouir du pays selon les promesses, il faut qu'Israël en jouisse selon la nouvelle alliance. Or, jusqu'à présent, ni le Messie, ni la nouvelle alliance n'ont introduit les Juifs dans ce pays. La nouvelle alliance n'est pas encore établie avec ce peuple-là. Les promesses ne peuvent pas avoir été accomplies, parce que Christ est la vraie semence d'Abraham. Les Juifs ont été rejetés et l'accomplissement n'a pas eu lieu. Ce sont deux grands éléments de bénédiction d'Israël, le Messie et la nouvelle alliance. Israël n'a joui de l'effet de la promesse, ni d'après l'un, ni d'après l'autre. Le fait est qu'après l'idolâtrie du veau d'or, Dieu a placé son peuple Israël sous un gouvernement fondé moitié sur la loi, moitié sur la grâce. Voyez Exode 32 à 34. C'est-à-dire que, quand Moïse est monté sur la montagne de Sinaï, Dieu a révélé son nom comme le Dieu miséricordieux et faisant grâce, lent à la colère et grand en bonté et en vérité. Voilà la grâce. Mais en même temps, il a donné la loi des 10 commandements à Moïse pour le peuple, en sorte qu'il les a placés sous la condition de l'obéissance. Voilà sur quel pied Israël s'est trouvé depuis que Moïse monta pour la seconde fois sur la montagne où il passa 40 jours. Quoiqu'il eût confessé les péchés d'Israël, et, par son intercession, obtenu le pardon du peuple par la grâce, cependant, Dieu replace ce dernier sous l'obéissance de la loi. Dans tout cela, il n'était pas question de Jérusalem, mais seulement des grands principes, des bases des relations de Dieu avec son peuple. Plus tard, voir Lévitique 26, nous trouvons les menaces faites au peuple sur les conséquences de leur conduite. C'est un long chapitre où il promet les bénédictions en cas d'obéissance, où il leur dit même « Je mettrai mon tabernacle au milieu de vous » et leur promet toute bénédiction terrestre, verset 1 à 13. Mais si vous ne m'écoutez pas, alors il les menace de ses jugements réitérés et enfin de les chasser de leur pays, verset 14 à 39. Et c'est précisément ce qui leur est arrivé par la captivité de Babylone. Comparez 2 Chroniques 36, verset 21, avec Lévitique 26, verset 34. Quand la terre a joui de ses sabbats, pendant le temps de la désolation de Jérusalem. Tous les 7 ans, il y avait une année sabbatique, mais le peuple n'avait pas assez de foi en Dieu pour l'observer, et la conséquence de ce qu'il n'a pas reconnu Dieu en observant l'année sabbatique est que Dieu a dit, en Lévitique 26, verset 34 et 35, « Alors le pays jouira de ses sabbats. Il se reposera parce qu'il ne s'était pas reposé dans vos sabbats pendant que vous y habitiez. » C'est ce qui est arrivé par le moyen de la captivité. Ensuite, la promesse leur est faite que s'ils confessent leur iniquité, Dieu se souviendra d'eux et les ramènera. Le même principe est présenté en Deutéronome 28, verset 29. On y trouve les bénédictions, les malédictions, et ensuite, chapitre 30, les promesses, c'est-à-dire la grâce pour ceux qui se repentent dans le pays où ils ont été emmenés captifs. Il y avait donc quelque chose de spécial dans le cas de Daniel. C'était le cas prévu dans ces menaces. J'attirerai encore votre attention sur 1 roi 9, parce que c'est alors que Dieu fait voir, spécialement en réponse à Salomon, ce qu'il fera dans le cas de l'infidélité de sa famille, et il identifie son nom avec la ville de Jérusalem, et spécialement avec le temple. 1 roi 8, verset 29. Dans sa prière, Salomon ne demande pas l'accomplissement des promesses faites à Abraham, mais seulement de celles qui ont été faites à Moïse, lesquelles placent le peuple sous la condition d'obéissance dans son pays. 1 roi 8, verset 53. Eh bien, c'est cette prière que Dieu exauce au chapitre 9 de Daniel. Nous avons vu ce que Moïse a dit. Salomon, qui consacre cette maison à Dieu, demande que Dieu le reconnaisse toujours, selon les principes de son gouvernement révélés à Moïse. Maintenant, Jérémie nous a fait voir que, pendant 70 ans, ce châtiment spécial pèserait sur eux, et Daniel reprend tout cela. Il ne remonte pas aux promesses faites à Abraham, mais aux paroles de Salomon et de Moïse, et pas plus haut que cela. Daniel 9, verset 11. Alors ont été versés sur nous l'exécration et le serment qui sont écrits dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre lui. Verset 16. Que ta colère et ta fureur se détournent, je te prie, de ta ville de Jérusalem, ta sainte montagne. Car, en effet, Dieu avait choisi Jérusalem. Je n'entrerai pas pour le moment dans la réponse de Dieu. Je dirai cependant qu'elle explique tout ce qui doit arriver à Jérusalem. Mais, en prenant l'occasion présentée par le retour de la captivité de Babylone, Dieu va beaucoup plus loin et annonce ce qui arrivera jusqu'à la fin au sujet des désolations de Jérusalem. Il le fait, pour ainsi dire, sous un point de vue mosaïque, non pas en révélant l'état et les bénédictions finales de Jérusalem, mais en donnant sa réponse au sujet des jugements qui avaient fondu sur la sainte cité parce qu'elle avait violé la loi de Moïse et qu'elle avait été placée sous le jugement dont Moïse l'avait menacée. Au sujet de ce choix de Jérusalem, je vous indiquerai seulement deux ou trois passages. Psaume 78, verset 68, psaume 87 et 132. Ce dernier nous montre qu'il fallait d'abord trouver l'arche dans le champ, la ramener et lui donner un lieu de repos. C'était déjà la grâce agissant par la royauté, figure d'une meilleure délivrance, mais historiquement parlant, la famille de David est placée aussi sous des conditions. Si tes enfants gardent mon alliance et mes témoignages, etc. En même temps, quant à Jérusalem, le principe immuable de l'élection est annoncé. Car l'Éternel a choisi Sion. Il l'a désiré pour être son habitation. C'est ici mon repos à perpétuité. Ici j'habiterai, car je l'ai désiré. Puisque nous en sommes à ce psaume, je vous ferai remarquer en passant quelque chose de très frappant sur la bonté de Dieu. Si vous comparez les versets qui s'y trouvent, vous verrez de quelle manière Dieu dépasse tout ce qui y est demandé. David s'intéresse à la gloire de Dieu. Il dit, verset 9, « Que tes sacrificateurs soient revêtus de justice et que tes saints chantent de joie. » Dans la réponse, verset 16, il est dit « Je revêtirai de salut ces sacrificateurs et ces saints exulteront en chantant de joie. » Il avait dit, verset 8, « Lève-toi, Éternel, pour entrer dans ton repos, toi et l'arche de ta force. » Et la réponse est « L'Éternel a choisi Sion, il l'a désiré pour être son habitation. C'est ici mon repos à perpétuité. Ici j'habiterai, car je l'ai désiré. Je bénirai abondamment ses vivres, je rassasirai de pain ses pauvres. » Versets 13 à 15. Il avait demandé « À cause de David, ton serviteur, ne repousse pas la face de ton oint. » Dieu répond « Sur lui fleurira sa couronne. » C'est-à-dire qu'à chacune de ses demandes, la réponse dépasse largement en bénédiction ce que le cœur du fidèle trouvait à demander. Il y a encore un passage en Zacharie quant à la joie spéciale que Christ ressent sur Jérusalem au dernier jour. Zacharie 2, versets 11 et 12. Beaucoup de nations se joindront à l'Éternel en ce jour-là, et elles me seront pour peuple, et je demeurerai au milieu de toi. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé à toi. Et l'Éternel possédera Juda comme sa part sur la terre sainte, et il choisira encore Jérusalem. Vous trouvez au verset 12 ce qui distingue les bénédictions qui font suite à toutes les choses pénibles et humiliantes que nous examinons en Daniel. Seulement, ce dont il s'agit ici en Zacharie est « après la gloire », verset 8, c'est-à-dire au-delà de la période comprise dans la prophétie de Daniel. On trouve la même chose au chapitre 12, verset 2. « Je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. » Elle est une ville élue, comme Israël est un peuple élu, et comme l'Église est une épouse élue. Daniel nous présente ici spécialement les circonstances qui se réaliseront en Israël, eut égard aux promesses faites par Moïse, qu'il serait ramené de la captivité de Babylone. Le Saint-Esprit saisit cette pensée pour conduire l'histoire du peuple, ou plutôt de Jérusalem, en introduisant les circonstances capitales de la première venue de Jésus, seulement jusqu'au point où la bénédiction commence, et non pas pour révéler toutes les bénédictions que je vous ai indiquées. Mais le point essentiel, c'est l'esprit dans lequel Daniel s'identifiait avec le peuple de Dieu, confessant tous leurs péchés comme le sien propre devant Dieu.